Lors de notre étude précédente, en établissant la nécessité du baptême dans la doctrine du salut, nous avons implicitement démontré que le baptême contribue au salut de l'âme. Aussi, l'appel au baptême faisait-il partie de toute prédication de l'Évangile au temps apostolique, car Jésus avait dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ». Dans quelle mesure le baptême contribue-t-il au salut de l'âme? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec notre Bible en main. Souvenons-nous que bien avant d'envoyer ses disciples de par le monde avec la mission de prêcher l'Évangile, Jésus avait eu une conversation avec un chef religieux du peuple, nommé Nicodème. Cette conversation nous est rapportée au chapitre 3 de l'Évangile selon Jean. C'est là où Jésus dit cette phrase que Nicodème ne comprit pas tout de suite. « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Comme tous les plus grands commentateurs s'accordent pour le reconnaître, Jésus fait ici une allusion directe au baptême et à sa nécessité absolue. Il déclare en effet que l'accès au royaume de Dieu est interdit à celui qui ne sera pas passé par les eaux du baptême et transformé dans son homme intérieur. Non seulement ce passage insiste-t-il sur la nécessité du baptême, mais il montre en outre que cet acte nous rend aptes à entrer dans le royaume de Dieu. Or, aucun pécheur n'entrera dans le royaume de Dieu. Ceci nous amène à parler de la nature de ce salut en Jésus-Christ. La Bible nous dit que Jésus est venu chercher ceux qui étaient perdus. Elle insiste sur le fait que le monde périt et que Jésus est venu pour le sauver. Elle précise que ce qui perd l'homme, c'est le péché qui l'enferme dans une sorte de prison invincible. Jésus seul peut la vaincre, si nous lui donnons libre accès par notre volonté et notre foi. Lui seul peut nous délivrer de l'amour, de la culpabilité et des conséquences du péché. Aux Juifs incrédules, Jésus dira cette phrase terrible, « Vous mourrez dans vos péchés, vous ne pouvez venir où je suis. » Être sauvé, c'est donc recevoir le pardon de ses péchés. Et c'est là toute la bonne nouvelle de l'Évangile qu'il fallait prêcher au monde entier. « Allez, leur avait dit Jésus, et dites-leur pourquoi je suis venu sur la terre. Proclamez partout ce que je vous ai enseigné. Parlez de mes souffrances et de ma mort pour les péchés des hommes, et dites-leur que je suis sorti victorieux de la mort. Celui qui croira en votre message et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. » Ne nous étonnons pas du ton catégorique de cette dernière déclaration. Envisagée dans toute son horreur, le spectacle de la croix et sa signification ne peut produire que la repentance et l'abandon à la volonté divine. Une attitude passive et indifférente nous semble même intolérable et nous comprenons mieux la question indignée de l'Épître aux Hébreux. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Or, par le baptême, l'homme est à la source même de ce salut. On peut dire que toute son âme s'y trempe généreusement. C'est bien là ce que l'apôtre Paul entend rappeler aux chrétiens de Rome. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Dans une lettre qu'il adresse aux églises de la Galatie, il déclare « Vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous avez revêtu Christ. » Dans les épîtres du Nouveau Testament, chaque allusion au baptême semble avoir pour but de rappeler aux chrétiens le moment crucial de leur conversion. Et c'est précisément le moment où le croyant est enseveli avec le Christ pour ressusciter avec lui, en conformité à sa mort et à sa résurrection, comme Paul le précise aux Romains et aux Colossiens. Outre que ces passages soulignent la signification profonde du baptême, ils décrivent aussi la forme du baptême, qui est, nous le rappelons, une immersion du corps dans l'eau. Ce baptême, tel qu'il se pratiquait au temps des premiers chrétiens, et tel qu'il devrait encore se pratiquer aujourd'hui, rappelle en effet d'une manière extraordinairement poignante l'ensevelissement et la résurrection du Christ auquel le baptisé s'associe. C'est pourquoi le baptême est le moment, nous pourrions dire, chronologique de la conversion. Il est l'épanouissement de la foi. Le baptême n'est donc pas une œuvre de mérite, il est un acte de foi. Et c'est justement cette foi agissante dans le baptême qui procure le pardon des péchés, car c'est par lui que nous entrons en contact avec le sang du Christ. Il existe une tendance qui rejettera violemment ce que je viens de dire. Elle groupe ceux pour qui le baptême ne sauve pas. C'est la foi qui sauve, car nous ne sommes justifiés que par elle seule. J'affirme avec eux que c'est la foi qui sauve. Mais avec Jacques, je dirais, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ? La foi peut-elle le sauver ?» J'affirme aussi, avec les Écritures, que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. La Bible dit aussi « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Dans sa lettre aux Romains, l'apôtre Paul dira encore « C'est en espérance que nous sommes sauvés ». Sont-ce là autant de différents moyens pour parvenir au salut ? Sommes-nous sauvés par la foi, par la grâce, ou par le baptême, ou par le simple fait d'invoquer le nom du Seigneur et d'espérer ? Nous voyons bien qu'il serait artificiel et erroné d'isoler ces éléments qui font tous partie du grand plan de Dieu pour le salut des hommes. Or, si on est prêt à laisser leur importance indéniable à ces choses, il semble qu'on soit encore particulièrement réticent quant à la place qu'occupe le baptême dans le plan du salut. C'est justement ce baptême que nous cherchons à réhabiliter ici. Son importance était bien trop grande dans l'Église primitive pour qu'on le néglige aujourd'hui. Considérons le cas de Saul de Tarse, le futur apôtre Paul. Il se rendait à Damas pour y persécuter les chrétiens, lorsque le Seigneur lui a apparu et se révéla à lui d'une manière si fulgurante qu'il en fut terrassé. Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Et c'est un homme tremblant, aveugle et chancelant que l'on conduit à Damas, où il demeure 3 jours sans voir, sans manger et sans boire. 3 jours seul avec lui-même. 3 jours de repentance amère et de remords. 3 jours de prostration avec le souvenir effrayant de cette voix qui lui avait dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Personne ne doute de la foi qui ébranle cet homme, car il a vu le Seigneur et il a entendu sa voix. Il l'a reconnu. Personne ne doute de son accablement, signe d'un profond repentir. Pourtant, avec la Bible, il faut reconnaître que cet homme, Saul de Tarse, était encore dans ses péchés. Comment pouvons-nous affirmer une telle chose ? Par le simple fait qu'un disciple nommé Ananias vint le trouver au bout de 3 jours, lui rendit la vue et lui dit « Et maintenant, que tardes-tu ? Lève-toi, sois baptisé et lave de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. » Ce passage se trouve dans le chapitre 22 du livre des Actes et le chapitre 9. La foi seule ne l'avait donc pas sauvé, pas plus que la repentance. Pour être lavé de ses péchés, Saul devait encore recevoir le baptême au nom du Seigneur. L'expression « lavé de tes péchés » est une allusion directe au moyen qui sera utilisé en vue de cette purification. Elle rejoint d'ailleurs ce que Paul dira lui-même aux chrétiens de l'église d'Éphèse. « Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. » Qui sommes-nous donc pour oser affirmer et enseigner que le baptême ne purifie pas, qu'il ne nous lave pas de nos péchés, que le baptême ne sauve pas? Qu'a donc voulu dire l'apôtre Pierre dans la ville de Jérusalem à la foule qui lui demandait « Que devons-nous faire ?» si le baptême ne procure pas le pardon des péchés? Souvenons-nous de sa réponse et de son commandement. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Il est vrai, et nous ne saurions trop insister là-dessus, que l'eau du baptême en elle-même n'a aucune vertu miraculeuse. Tout dépend de l'attitude du baptisé. Est-il mu par la foi ? A-t-il conscience de ses péchés et du fait que dans cet acte il va crucifier son ancienne vie pour renaître à une nouvelle vie ? Car le baptême sans la foi ne sauve pas plus que la foi sans le baptême. Ce sont deux éléments complémentaires et essentiels d'un même cheminement vers le même objectif, c'est-à-dire le pardon des péchés et le salut. En évoquant les eaux du déluge à travers lesquelles la famille de Noé fut sauvée, l'apôtre Pierre déclare que ce qui correspond à cette eau, c'est le baptême qui vous sauve à présent. Et il spécifie que ce baptême n'est pas un simple bain, mais c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Chers auditeurs, le vrai but du baptême est clair. Si vous avez été baptisé pour tout autre but, ou si vous n'avez pas été baptisé du tout, n'est-il pas temps d'y penser? Lors de notre prochaine émission, nous laisserons la Bible répondre à notre seconde question : qui peut recevoir le baptême ?